Jérémie. Oh, oh, oh. Ça va bien ce matin? Vous savez, c'est toujours un défi ouvrir la parole de Dieu. Et là, j'ai vraiment cassé ma nouvelle Bible. Là. C'est comme à ma main depuis tant d'heures. Et vous savez, ça fait trois fois que j'enseigne l'Apocalypse, puis... J'en reviens pas comment est-ce qu'on peut trouver des choses qu'on n'a pas vues avant. Parce que ça vous arrive des fois de lire le même livre souvent, puis à un moment donné, il y a comme des petites perles qui sortent, là, puis tu n'avais pas vu ça avant. Et c'est comme des cadeaux hein, du Seigneur qui nous donne tout cela. Alors, j'espère que mon titre ne vous fait pas trop peur. Le coma spirituel. J'ai essayé de trouver un titre qui fait réfléchir un peu. Là. Parce qu'on m'a donné la cinquième église, puis la cinquième église, ben, c'est celle-là, en fin de compte, qui le Seigneur est assez raide autour de là. Il n'y a pas d'éloge, rien. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse la lecture ensemble de l'église du chapitre 3. On va tourner dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Apocalypse 3, 1 à 6. On va la lire ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme. Affirme le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera aussi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'aimerais qu'on relise ensemble, s'il vous plaît, le verset 5. Celui qui vaincra sera aussi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui a des oreilles? On a toutes des oreilles. Alors, l'expression, si on a des oreilles, en voulant dire, si tu saisis ce que je viens de dire, là, avec tes deux oreilles, là, c'est important. Et lorsque je me préparais pour cette église, je me suis dit à moi-même, ouais, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans cette... matin, à vous, notre thème à matin, c'était quoi? Qui était ici ce matin à table du Seigneur? On a-tu parlé du livre? Puis quelqu'un a dit, c'est écrit avec le sang de Jésus, puis personne ne peut l'effacer. Hein? Souvenez-vous de ça? Et on va en venir au livre de vie, mais c'est important de mentionner ça. Parce que c'est justement ce verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Ceux qui croient à la perte du salut vont utiliser ces textes-là pour dire qu'on peut perdre notre salut si on ne fait pas attention, puis si on ne fait pas ce qu'on nous dit. Et là, le salut n'est plus par la grâce, par le moyen de la foi, un don gratuit de Dieu, mais devient un effort constant pour rester sauvé. Et donc, c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Il y a 43 versets dans le Nouveau Testament qui dit que le salut ne se perd pas. dans une bonne herméneutique, vous ne partez jamais des versets obscurs ou des versets sombres pour noircir les clairs. C'est pas logique, hein? Quand vous voulez éclairer une pièce noire, vous partez avec une bonne lampe de poche, puis vous arrivez avec la lumière et vous éclairez ce qu'il y a en avant de vous. Dans l'herméneutique, c'est la même chose. Lorsqu'on veut une science d'interprétation biblique, il faut absolument qu'on perde, il faut partir des versets qui sont clairs. Donc, il y a des versets clairs, nets et précis, comme exemple Jean 10, 28. « Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main. » Il y a plusieurs versets qui disent que la vie éternelle, elle est garantie par le sacrifice de Jésus seul. Et donc, lorsqu'on fait la déduction en lisant ce texte, que « Fais attention, on peut effacer ton nom du livre de vie. » Il faut faire bien attention. Alors, c'est pour ça que ça prend un bon contexte. Tournez dans le premier chapitre de l'Apocalypse, le verset 19, parce qu'il y a quatre grandes écoles de pensée, et on n'aura pas le temps à matin de les voir toutes les quatre, là, mais on va en prendre un qu'un. Mais il y a toujours des manières d'approcher le livre d'Apocalypse, qui est un livre prophétique. Et j'aimerais peut-être vous emmener au verset 19 ici, et lire ça jusque, et je vais rajouter le verset 20 avec. Ceux qui ont des Bibles, tournez dans chapitre 1, verset 19. Écris donc ce que tu as vu. Alors, c'est qui? C'est Jean avec la vision sur l'île de Patmos vers 96 dans notre ère. Écris ce que tu as vu, ce qui est, c'est-à-dire l'époque de Jean, ce qui est maintenant, c'est le présent du premier siècle. Ce n'est pas des églises qui sont projetées dans le futur. C'est des églises, des vraies églises du premier siècle. Et je me fie que, rendu à la cinquième église, on vous l'a dit plus qu'une fois. Et qui doit arriver. Alors, ces trois divisions, ce qui est, premièrement, ce que tu as vu. Regarde bien ce que tu vois là. C'est ça qui va arriver. C'est des affaires que je te révèle, là, Jean. Ce qui est maintenant à l'Asie, ce qui est maintenant dans les églises. Et puis, ce qui va arriver dans le futur. Donc, l'approche qu'on a prise, c'est l'approche futuriste qu'on appelle. C'est que l'Apocalypse est un livre de prophétie. Le chapitre 4 et 5 est la clé de l'Apocalypse, qui est le trône de Dieu, avec le livre écrit, c'est les deux bords. Et à partir du verset 6, l'Église n'est plus là. L'Église est enlevée. Et là, on voit les fléaux qui arrivent. Alors, l'approche futuriste est comme cela. Donc, nous, ce qu'on lit présentement, c'est qu'on est en train de lire des traits d'Église, plusieurs. Et naturellement, moi j'ai la cinquième ici, là. La cinquième, Sartre ici. Là. Comme vous voyez, là, il n'y a pas d'éloge pantoute, pantoute, là. Je ne suis pas tout seul, hein, lui, non plus, mais c'est plus tard, ça. Mais moi, il n'y a pas d'éloge. C'est la première fois. Pas d'éloge. Regardez comme c'est dur, ça. Mort, endormi, paralysé, comatique. Quand on regarde les autres, ça ne va pas bien, bien, mais je voulais montrer ce chart-là, non pas pour en faire un résumé, mais pour vous montrer que tous ces critères-là qu'on voit de l'Église du premier siècle, j'oserais même dire que c'est des choses qu'on peut voir dans n'importe quelle Église, dans n'importe quelle époque, n'importe où, parce que l'ennemi de Dieu est là pour détruire l'Église. L'ennemi de Dieu est là pour confondre l'Église, donner des faux buts aux chrétiens, et faire en sorte, en fin de compte, qu'on perde de vue beaucoup de choses qui est vraiment la volonté de Dieu pour l'Église. Et naturellement, lorsqu'on parle d'Église locale, il y a d'Église universelle, Dieu, en fin de compte, nous révèle, et là, il nous révèle, dans chaque Église, il nous révèle quelque chose de Jésus-Christ. Dans chaque Église ici, excepté deux, il va donner des éloges. Et après ça, il y a les reproches. Il y en a deux qui n'ont pas de reproches, hein? C'est le fun, hein, gars? Ces deux-là. Et ici, l'exhortation, là, l'encouragement, après ça, il y a la promesse. Voyez-vous, ces sept églises, en fin de compte, c'est en train de nous dire, en fin de compte, nous qui sommes en 2015, ces églises du passé, là, elles commencent, il y en a qui disent, hey, moi, j'aurais aimé ça vivre dans ce temps-là. Mais il y avait les mêmes problèmes que nous autres. Comprenez-vous ce que je reviens avec ça, cette charte-là? Là? On a tous les mêmes ennemis. Depuis la croix, les ennemis de Dieu veulent détruire l'Église, détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Et lorsqu'il y a des chrétiens qui sont réunis ensemble, peu importe où, que ce soit en Asie, au Québec, en Chine, n'importe où dans le monde, des chrétiens qui sont réunis au nom du Seigneur, ils vont avoir ces choses-là qui vont sortir. Il y a des époques, des ci et des ça. Et ça, ça va décrire, en fin de compte, des choses potentielles qui vont arriver dans les futures églises à partir du deuxième. Et ça nous rejoint à nous aujourd'hui. Alors, ces critères-là, en fin de compte, ne s'appliquent pas nécessairement à telle église que vous pensez ou tel groupement que vous pensez. C'est une photocopie de l'église du premier siècle. Vous savez, il n'y a rien de plus encourageant de dire « Wow, je suis content qu'on n'a pas passé par là ». Mais lorsqu'on regarde en arrière, on n'est pas là, on est loin. Ils sont tous morts. Fait qu'on peut les regarder sans trop avoir honte. Mais savoir que c'est dans le cœur de l'homme. Savoir que dans l'Église, oui, il y a toutes ces choses-là qui peuvent arriver. Des fois, il y a des éloges. Des fois, il n'y a pas d'éloges de la part du Seigneur. Le Seigneur a des promesses pour les églises. Le Seigneur se fait connaître aux églises. Le Seigneur a des reproches aux églises, mais il y a des églises qui n'ont pas de reproches. Et ce qu'il faut savoir dans tout cela, c'est de marcher dans la crainte de Dieu dans l'Église, afin que Dieu soit glorifié dans tout cela. J'aimerais expliquer mon titre un petit peu. Excusez, on va aller par l'autre bord. Bon. Le coma spirituel, là, j'ai pris les synonymes, là, parce que je ne voulais pas vous faire paniquer un matin, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, le coma spirituel? Vous êtes mort. Pourtant, il dit à l'Église, vous êtes mort, puis il dit qu'il y a des vainqueurs dans l'Église. Avez-vous remarqué qu'il y a des vainqueurs dans chaque Église? Peu importe la situation. Avez-vous remarqué? On va le voir plus tard pourquoi. Alors, assoupissement, abattement, dépression, litige, léthargie, c'est-à-dire, insensible, perte de connaissance, sommeil, évanouissement. Alors, c'est ça la définition du coma, médicalement. Là, j'ai ramassé ça d'un dictionnaire. Puis, si on va plus loin, il dit à Sartre, elle avait perdu, oublié son origine divine et ne se préoccupait plus du Seigneur qui l'avait engendré. Perdre de vue l'origine biblique. Elle ne se préoccupait plus du Seigneur. Il y avait d'autres préoccupations. Puis mon dada, moi, c'est ça. L'émerveillement de votre salut. Moi, je vous le dis, là, vous êtes malheureux dans votre vie chrétienne. Vous avez perdu l'émerveillement de votre grand salut. Vous êtes confus dans votre vie chrétienne. Vous avez perdu l'émerveillement de votre grand salut. Et c'est exactement ça que Sardes et l'Église-là étaient. Il y avait ces critères-là qui étaient parmi l'Église, qui avaient des croyants et des non-croyants dedans, comme dans toutes les Églises en passant. Et elle avait oublié son origine divine, ne s'occupait plus du Seigneur trop. Elle savait donner des priorités autres que le Seigneur. C'était plus l'Évangile qui était prioritaire, c'était de couper les cheveux en quatre avec ce que moi j'en pense, c'est plus important que toi. J'ai raison, t'as tort. Elle était préoccupée par son nombril. Ayant beaucoup de nombrilisme, c'est-à-dire du monde qui se regarde le nombril, ça fait des opiniâtres, des gens avec des opinions, puis ils n'ont pas de but commun, ils n'ont pas d'unité, et puis ils ne peuvent pas marcher pour la gloire de Dieu parce qu'ils ont oublié l'origine divine qui est la croix, qui est l'Évangile. Et c'est cela que Sartre est en train de nous montrer. Vous savez, un coma est une perte de connaissance. Abolition, hein? Abolition de la conscience et de la vigilance. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a trois points qu'on sort de cette église-là, puis c'est un des points, c'est la vigilance. C'est une perte de vigilance, plus alerte du tout spirituellement, engourdi spirituellement. Le premier stade d'un coma, je l'ai mis parce que c'est vraiment intéressant. Le premier stade d'un coma, c'est un stade de obnubilation. Obnubilation, c'est-à-dire le patient est capable de répondre à des stimulants douloureux. Bien, si vous voulez savoir si vous êtes dans le coma, là, la prochaine épreuve que vous allez avoir, là, qui a fait vraiment mal, là, si vous allez vous intéresser plus au Seigneur qu'avant. Ça fait mal. Puis là, là vous allez vous dire, moi, je règle ma vie avec Dieu. Moi, je vais accepter le Seigneur. C'est vraiment le premier stade. C'est que on connaît intellectuellement beaucoup de données à propos du Seigneur. On connaît, on chante des cantiques, on connaît des versets, mais ça n'a pas descendu dans le cœur pour transformer les vies. Le deuxième stade, c'est le stade de la disparition de la capacité d'éveil du sujet. On est comme du monde qui marche endormi. Plus de sensibilité en ce qui concerne les choses de Dieu. La vérité tombe deuxième. Ce qui compte, c'est l'autre affaire. La vérité, la guerre de la vérité, ça n'existe plus. On s'en va, puis on fait ça comme qu'on veut, et puis on passe tout droit. Et là, il arrive toutes sortes de choses dans cette étape-là. C'est une étape où il n'y a plus de vigilance. C'est une étape qu'on est endormi. La troisième étape, c'est le coma profond ou coma carus qu'appelle. Il n'y a plus aucune réaction au stimulus douloureux. C'est-à-dire, que vous soyez dans l'épreuve ou pas dans l'épreuve, que vous soyez dans des temps difficiles ou pas difficiles, il n'y a aucune réaction, aucun intérêt pour régler ça spirituellement, cette affaire-là. C'est comme statu quo. On n'y travaille pas. On s'en fout comme dans l'an 40, et puis on passe par-dessus. Et ça, ce coma-là, là, nous amène justement au quatrième stade, et là, on arrive au perdant, ou le coma dépassé qu'on appelle, qui n'est en fait pas un coma, mais un état de mort cérébrale. C'est pour ça que j'avais mis une photo avec le cerveau comme... Une mort cérébrale. La mort cérébrale, c'est épeurant, hein, le coma. Vous savez, la première chose que cette église-là est reprochée, c'est sa vigilance. Elle n'est pas vigilante. Deux fois, il va le mentionner, d'être vigilant, de veiller. Réveille-toi. Dans d'autres commentateurs, ils ne prennent pas le mot mort, ils l'ont changé pour le mot en sommeil. Ils l'appellent l'église du sommeil. L'église, c'est des gens qui dorment, qui marche. Mais lorsqu'on regarde le mot mort, en fin de compte, on voit dans Éphésiens 2:1, vous étiez morts dans vos péchés et vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Donc, des morts vivants, nous autres, dans le Nouveau Testament, on connaît ça. Et c'est exactement ça qui arrive là. C'est des morts vivants qui se nomment chrétiens, qui ne sont pas encore, mais qui sont dans l'Église. Et là, l'ange va donner des exhortations, puis la première exhortation dans 3:1-2, c'est « Sois vigilant et affermis le reste. » Voyez-vous, il y a toujours un reste, il y a toujours l'Évangile. Jusqu'au retour du Seigneur, l'Évangile transforme encore des vies. Vous qui écoutez ça ce matin-là, vos vies vont être transformées si vous êtes vigilant, si vous avez des gens autour de vous qui vont vous affermir dans le Seigneur. Il y a un reste. Ceux qui sont sur le bord de tout lâcher le Seigneur là, parce qu'ils vivent telle affaire ou ils veulent vivre telle affaire, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Encouragement à la vigilance. OK. Mais à qui tu parles, Seigneur? Là? Ils sont supposés être tous morts. Là. Non, non. C'est l'ensemble de l'affaire. Mais il y a toujours des vainqueurs dans ça. Dans toutes les églises, il y a des vainqueurs. Et ça dit quoi ensemble? Les oreilles. Ça passe par les oreilles, mes amis. Pourquoi? Parce que le problème est entre les deux oreilles. Tout le temps. Toujours là, le problème. Vous pensez que vous avez un problème de telle ou telle place? Non. Je ne le dirai pas. Non, c'est entre les deux oreilles. La deuxième chose, elle n'attend plus le retour du Seigneur. Puis ça, là, quand on y réfléchit comme il faut, là, vous savez, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Rappelle-toi quand tu as accepté le Seigneur. Rappelle-toi quand tu as dit oui au Seigneur. Rappelle-toi quand tu t'es fait baptiser devant tout le monde et t'as donné ton témoignage en shakant, en lisant le papier. Rappelle-toi. toi qui es ensommeillé, toi qui es dans le coma, là, rappelle-toi l'émerveillement de votre salut. Rappelle-toi des événements, comment que le Seigneur t'a emmené au pied de la croix. Rappelle-toi ces choses-là. Rappelle-toi, quand tu as reçu le Seigneur, les premiers pas d'obéissance que tu as fait pour plaire à Dieu. Rappelle-toi de cela. Regarde, dromadaire à course légère, les pas dans la vallée. Regarde ça, là. Au lieu de regarder ton nombril dans le présent puis sauter en bas du bâtiment, on regarde notre confession de foi, l'émerveillement de notre grand salut. C'est important, ça. Garde, tu as entendu la parole, garde-les, repens-toi. Oui, le Seigneur parle à ce reste qui est en train de s'éliminer. Repens-toi. Vous savez, on se repent une fois lorsqu'on accepte le Seigneur. Puis c'est une surprise pour vous si je vous dis un matin, vous continuez toute votre vie à vous repentir après. Pas pour accepter le Seigneur, mais pour reconnaître le travail que Dieu fait dans nos vies. Pour reconnaître le mal qui est attaché à notre cœur. Reconnaître que nous, on est de ceux qui doivent reconnaître et dire comme Dieu. Le mot confesser, littéralement, veut dire comme Dieu. Qu'on dit comme Dieu en ce qui concerne le péché, puis on se repent. On ne fait pas une virgule en disant « mais ». L'autre, il fait ça comme ça, moi, je fais ça comme ça, je ne suis pas pire que l'autre, l'autre a fait ci. Non, non, non. Dieu dit ses péchés, on accepte ça. C'est ça, croire en Dieu. Alors, la vigilance n'est plus là. L'avertissement, regardez bien. L'avertissement, en fin de compte, regardez. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si je vous poserais la question, pour qui est-ce que le Seigneur vient comme un voleur? Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur ne vient pas comme un voleur pour nous autres. On sait que le Seigneur va revenir un jour, en son temps. On ne sait pas le jour, on ne sait pas la date, on ne sait pas l'heure, mais on sait qu'il va revenir. Et ce ne sera pas un voleur qui va venir pour nous chercher, nous. Ça va être qui? Jésus lui-même. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, on va les rejoindre dans les airs pour être pour toujours avec le Seigneur. Ce n'est pas un voleur. C'est un sauveur qu'on rencontre. Mais si on perd de vue le retour du Seigneur, c'est pas j'aime bien le repas du Seigneur à cause de ça. Avoir marqué le repas du Seigneur, on n'en parle pas souvent, mais dans 1 Corinthiens 11, c'est aussi marqué, on prend le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce que vous attendez le Seigneur dans votre quotidien? J'étais assis sur le perron à la maison l'autre jour, j'regardais les nuages, puis je me disais, hey, ça serait le fun, hein, si le Seigneur, il y avait une patte qui sortirait du nuage. Non, mais tu rêves, hein, t'sais. Attendre le Seigneur. Bien, une église morte, une église dans le coma, une église endormie, attend plus le Seigneur. Ils sont trop préoccupés par d'autres choses. Donc, s'ils n'attendent plus le Seigneur, c'est pas important d'évangéliser. C'est pas important de partager l'Évangile. On fera demain. On va prendre demain. Voyez-vous? À quelque part, ici, là, on voit, il dit, si tu ne veilles pas, à quelque part, le cœur s'endurcit. Je ne sais pas quand ça fait de fois que vous entendez l'Évangile et vous n'avez pas pris de décision pour le Seigneur. Voulez-vous que je vous conte l'histoire la plus épeurante dans l'Ancien Testament pour ça? C'est l'histoire de Pharaon. Pharaon, là, à chaque plaie, 6 plaies d'ailleurs, il endurcissait son propre cœur. Peut-être que vous avez entendu l'Évangile 6 fois. Mais savez-vous ça que 4 fois, c'est Dieu qui endurcit le cœur à Pharaon? Puis il est encore dans sa position, même comme ça. Voyez-vous, le principe d'endurcissement, c'est un principe épeurant. Et c'est pour cela que ça va bien avec l'Église de Sardes, parce que c'est une Église qui est justement en train de perdre la vigilance, de perdre le fait que c'est important de se repentir, de perdre le fait que le Seigneur revient bientôt. Ils ont perdu l'émerveillement de leur salut et ils sont rendus, je ne sais pas où. Ça existait au 1er siècle, une Église de même. Imaginez-vous en 2015, il y en a à quelque part. Ce n'est pas le cap, mais il y en a à quelque part. Mais parmi le cap, y a-tu du monde dans le coma spirituel ici ce matin? Y a-tu du monde qui dort spirituellement sa switch? qui essayent de négocier les deux styles de vie que le Seigneur offre. Le Seigneur offre deux styles de vie, hein? Un style de vie qui est pour lui, puis un style de vie qui est contre lui. C'est deux seuls qu'il nous offre. Alors, il faut savoir ici, à fin de compte, que l'avertissement est vraiment solennel. Quand on regarde l'avertissement, regardez. Pas de vigilance, pas connu du Seigneur. Matthieu 25, ça c'est les vierges. Si vous tournez dans Matthieu 25, là, là, j'ai juste mis le verset 12, le verset 11 et 12. Mais vous connaissez l'histoire des vierges? Des vierges. Il y en a des folles, il y en a des intelligents. Ils attendent le retour du Seigneur, mais il y en a qui l'attendent endormi. Et puis, à un moment donné, le Seigneur arrive comme un voleur. « Oh, plus d'huile! Je vais emprunter d'huile. Non, je n'ai plus. » Regardez ce qu'il dit. Il ne faut pas trouver une signification à toutes les petites choses, là, mais regardez bien. Là. Le verset 11. « Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Pas des chrétiens? Je ne connais pas. Mais pourtant, il était là, endormi dans l'église. Qui a vu le film Taken Away, là, en français? Il est-il traduit en français? En l'enlèvement, là? Il reste le pasteur et son assistant. Puis une gang à l'église, les autres sont partis. C'est un vrai clin d'œil, ça, là. Je ne sais pas si vous savez, mais... non, le pasteur est parti, lui. C'est plutôt l'assistant pasteur qui reste là. Puis là, il confesse son péché, puis il dit, « Quand je prêchais pour ma chair. Quand je prêchais, je n'avais pas vraiment mis Dieu dans ma vie, puis je voulais plaire au monde, puis je voulais dire ce que le monde en voulait entendre. » Puis, acteur, il y a tout en affaire, là. Vous avez déjà vu ce film-là, là. C'est un vrai clin d'œil. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner à Matthieu 25 avec ses 10 vierges? Il enseigne la même affaire que le Seigneur est en train d'enseigner à Sarah. La vigilance. Il y a 5 vierges qui ont été sages et vigilants. Les autres ont été folles, pas de vigilance. C'est ça. Pourquoi? Ce ne sont pas des vrais chrétiens. Parce que, à quelque part, dans l'Église, Matthieu 7, 21-23 dit la même chose. Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Où est-ce qu'ils sont, ces gens-là? Dans l'église locale, qui est traduit par une église physique, temporelle, mais ils sont là. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? La même affaire qu'il dit là, aux vierges. Même chose. Je ne vous connais même pas. Vous n'êtes même pas chrétien. Oui, mais on dit Jésus, nous autres, quand on parle là. On prononce Jésus quand on parle là. Puis on est avec une gang de chrétiens qui chantent des beaux cantiques. Voyez-vous, à quelque part, là, cette paradoxe, croyant et incroyant. Matthieu 13, 23, 24, « L'ennemi vint semer l'ivraie parmi le blé. Laissez croître, dit le Seigneur. Laisse-les grandir ensemble, le blé et l'ivraie. » Puis le Seigneur dit aux anges, « Le jour de la récolte, le jour de la récolte, on va les semer, on va ramasser tout ça. Puis on va séparer les deux. » L'ivraie va dans le feu, l'enfer, puis le blé va au ciel. Mais ça, ils poussent ensemble. Et c'est là, c'est là la grâce de Dieu au travers des siècles. Que ceux qui sont assis ici et qui n'ont pas pris Dieu au sérieux dans leur vie, vous attendez encore aujourd'hui, en l'an de grâce 2015, l'Évangile. L'inscription du livre, l'inscription dans le livre de vie. Ratifié par les vainqueurs. Avant la fondation, Éphésiens est clair, hein? Éphésiens 1 dit avant la fondation, Éphésiens 1, 3, hein? Dieu a un livre. Regardez, je n'effacerai point son livre, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Deux choses. il y a ceux qui sont nés de nouveau, vraiment enfants de Dieu, puis ceux qui ne sont pas, dans la même gang. Il y a une séparation qui va se faire un jour. Et Dieu, en attendant, le Seigneur nous donne une métaphore d'un livre qui existe. Pensez-vous qu'il y a un livre avec des feuilles en haut? Pensez-y, là. On a des beaux métaphores, là, tu sais, je veux dire, écrit avec le sang, c'est pas méchant, là, c'est vrai, là, tu sais. Mais comment, c'est quoi ça, ce livre-là? Parce qu'il est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Là, je regarde l'heure parce que j'ai toutes les fois que ça a été utilisé. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer ça. Mais je vous invite à peut-être un jour à regarder tout ça. Vous savez, le livre de vie, hey, Moïse, quand il dit « Efface mon nom du livre de vie! » Hein? Quel livre de vie que c'était? C'était physique ou spirituel? Le livre de vie, il faut toujours l'interpréter avec le contexte immédiat. Même si ça parle du livre de vie, c'est le contexte immédiat qui donne le sens réel. Et le sens réel ici, plusieurs manières de voir ça. Je vais vous donner deux écoles de pensée. Première école de pensée, c'est que tous les êtres humains sont écrits dans un livre de vie physique. OK? Ils sont tous écrits. Et le jour qu'ils décèdent, qu'ils meurent sans Christ, leurs noms sont effacés du livre de vie. Donc, dans Apocalypse 21, lorsqu'il arrive en dernier ici, dans Apocalypse 21, qui est marqué ici, « Ils n'entreront que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. » Ça veut dire ça, ceux qui sont morts sans Christ, sans le sang de l'agneau. Donc, Dieu use de patience envers tous. Et c'est d'ailleurs ça qu'il faut comprendre dans tout cela. C'est qu'à quelque part, il y a deux catégories de personnes, il y a deux groupes de personnes dans l'Église. Il y a ceux qui disent, puis il y a ceux qui font. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, puis ceux qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, puis qui se disent, se nomment frère. Dieu veut que tous les hommes bénéficient du salut acquis par son Fils à la croix du calvaire. Mais il les laisse libres de leur décision, d'accepter ou de négliger ce salut. Et il ne les place sous aucune contrainte. Parce que ça ne sera pas par la foi, parce que la foi, c'est tu décides d'accepter. Il incombe donc à l'individu lui-même de ratifier, c'est-à-dire confirmer, l'inscription de son nom dans le livre de vie. À quelque part, le Seigneur annonce l'Évangile, ou par le monde entier. Et lorsque le Saint-Esprit vient toucher les cœurs des gens, et les gens saisissent l'Évangile, le prix de la grâce, et acceptent Jésus-Christ, réellement, le nom reste dans le livre de vie, spirituellement et physiquement. Et le Seigneur décide qu'amener nous chercher. Et il faut savoir dans tout cela, mes amis, c'est que lorsqu'un pécheur se repent et accepte Christ comme sauveur, il confirme son inscription qui devient alors définitif. Car rien à aucun moment ne pourra plus effacer et ceci pour l'éternité. L'effacer, ceci pour l'éternité. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'à quelque part, le Seigneur gère tout ça, lui. Moi, je ne suis pas assis sur le trône de Jésus-Christ pour envoyer le monde au ciel et en enfer. Le Seigneur, c'est un papier de Dieu, tout ça, comme je dis souvent. Mais à quelque part, lorsque vous avez accepté le Seigneur, réellement, votre nom est écrit dans le livre de vie, puis personne ne peut l'effacer. Parce que je rejoins Maurice qui disait un matin, il a été écrit par le sang de l'agneau. Mais ce qui est mêlant dans tout ça, il ne faut pas se mêler, c'est qu'au travers de tout ça, il y en a qui disent « Jésus, Jésus, Jésus ». Que celui qui prononce le nom du Seigneur Jésus s'éloigne de l'iniquité. OK? C'est qu'il faut faire attention dans tout ça parce que le pire mensonge qu'on peut faire à quelqu'un, pire mensonge, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. Le mensonge qu'on se fait à soi-même. Vous savez, dans une certaine religion, on arrive avec un petit bébé, puis on le fait baptiser, puis on lui dit, là, tu viens de rentrer dans la famille de Dieu, tu t'appelles Joseph Intel, tu es rendu maintenant dans la mère d'Église, tu es rendu maintenant un chrétien. Le gars part avec son petit bébé. Le petit bébé, il arrive à confirmation. Il donne une taxe à la bouche. À confirmation. Hein, ben 6-7 ans. Il part. Il revient adulte, puis il se marie. Là, il dit à tout le monde qu'il est en train de marier. Ah, c'est les croyants qui sont dans la main d'Église. On les marie. C'est des chrétiens qui se marient. Puis quelques années plus tard, il rentre d'un cercueil. Le curé dit, voici celui qui est rentré dans la famille de Dieu par le baptême d'eau. Et voici celui qui a été confirmé. Voici celui que j'ai marié, qui a aimé ses enfants, puis qui a aimé son beau-frère, puis qui a aimé sa belle-sœur. Puis on peut lui demander tout ce qu'on veut à cette heure, parce qu'il est auprès de Dieu, etc. Et le gars se réveille en enfer. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait à croire qu'il était un chrétien toute sa vie, quand il ne l'était pas. Ça peut-tu arriver dans l'Église évangélique? Sardes est vraiment une église qui nous fait peur. Moi, j'ai peur de parler de même. J'aurais aimé ça pogner l'autre. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné celle-là. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voici le cri du cœur à Dieu aux restes qui sont sur le bord de lâcher l'Évangile de grâce. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils passent devant l'Évangile comme d'un buffet. Ils sentent le buffet, ils goûtent le buffet, ils ne l'envalent jamais. Mon beau-frère me dit, « Hey, vous autres, c'est merveilleux. Vous prêtez les trailers. Vous aidez les uns les autres. Ben moi, je fais partie de ce gang-là. Tu sais, un autre automobile, il dit, « Ah, je me demande si je suis rentré dans la bonne gang. » Il y avait des épreuves. Mais voyez-vous, le cœur de Dieu, c'est ça, en l'an de grâce 2015. Si vous êtes ici ce matin, c'est ce que Dieu veut pour vous. Vous savez, il y a une provision. Regardez bien. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous en pensez? Avez-vous trop fait de péchés que Dieu ne peut pas vous pardonner? Ben non. Il est mort pour les péchés du monde entier. Ça veut dire quoi, ça? Tous les êtres humains qui ont existé sur la planète Terre depuis le début jusqu'à la fin. Passé, présent, futur, Christ est mort pour cela. Et il a demandé une chose. Que celui qui croit en Jésus place leur foi seule dans le sacrifice seul de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, pour devenir enfant de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit saisit les cœurs, ça transforme les vies, mes amis. Notre vaine manière de vivre, hein, on le cite souvent, ce n'est pas par de l'argent ni de l'or qu'on a été racheté. Hein? De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est quoi ça, la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères? Cette vieille nature pécheresse qui veut nous faire marcher selon notre petit nombril, notre égoïsme, notre orgueil. Lorsqu'on vient à Christ, ces choses-là, le Saint-Esprit est en nous, nous aide à être transformés à l'image de Jésus-Christ, Romains 8, n'est-ce pas? Et tranquillement, cette transformation commence maintenant à la nouvelle naissance. Quelqu'un me dit, « Oh, on va être transformé, mais qu'on va être le Seigneur. » Oui, oui, 1 Jean 3, 2 le dit. « Lorsque nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme il nous a connus. » Oui, oui, mais la transformation à l'image de Jésus commence dès notre conversion. Parce que la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, ce n'est plus mon style de vie. Trois choses pour terminer. Qui est les mêmes choses, là. Mais je voulais les répéter. Je voulais pas vous faire peur, mais ça me tentait de m'habiller avec... Avez-vous déjà vu ça? Il y a un gars qui a pris un ascenseur, puis le croque-mort était là avec une faux. Avez-vous déjà vu ça dans un film? Tu sais, ce qui représente la mort, à quoi ça représente la mort? C'est un gars en noir avec une capuche, là. Hein? Il y a une capuche, et puis il y a une grande faux. Je me sens un peu comme ça matin. Parce que je vais exciter votre vigilance. Je veux remettre en question votre style de vie. Je veux vous ramener lorsque vous avez accepté le Seigneur. Je veux vous interroger par rapport à votre sécurité éternelle. Mon but, c'est ça. Je veux que vous soyez de ceux qui sortent d'ici ce matin avec, vous allez être des gens vigilants, avec un discernement spirituel, avec un amour pour la parole de Dieu, un amour pour le Seigneur. C'est mon but, que vous soyez vigilants. Assemblée du Cap de Madeleine, sois vigilante. Oh, excusez. Mon autre but, à fin de compte, c'est le deuxième. Attendre le retour du Seigneur. Plusieurs manières d'attendre le retour du Seigneur. Je fais penser en Europe, il y a eu une affaire, le gars, un clergé assez haut placé en Europe, était voir une prostituée puis il est mort d'une maladie de cœur dans la chambre de la prostituée. Ça a fait tout un scandale. Quand est-ce qu'il va venir, le Seigneur? Justement, à Rouyn-Noranda, Tony est en train de jouer de la guitare. C'est une réunion normale. À un moment donné, il commence à pencher sur le côté gauche. Il tombe à terre. On l'a ramassé le plus vite possible, sorti de là. Il y a eu une faiblesse. Non, mais tu sais jamais. Hein? Puis laisse-moi vous dire quelque chose pour vous aider, pour m'aider dans ma sanctification. Le fait de penser que Jésus peut revenir à n'importe quel moment, savoir que c'est imminent, son retour va venir lorsqu'il va le décider, ça m'aide bien gros à la sanctification, à ne pas me décourager. Puis je suis content de m'en rappeler quand je prends les éléments le matin, avec vous le dimanche matin. Voyez-vous, je veux vous exciter à penser au retour du Seigneur. Faites-en une chose spéciale dans votre vie. Vous allez voir, ça va vous encourager dans les épreuves, ça va vous encourager dans les trois sortes de nouvelles, même, je dirais. Les bonnes, les mauvaises, puis pas pantoute. Ça va vous encourager dans ça. Ça, c'est un peu pareil, un message là-dessus, là, en passant. Et l'inscription dans le livre de vie. Hey, rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi où tu étais. Rappelle-toi de ton salut, l'émerveillement du salut. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Quand les livres sont ouverts en haut, là, c'est fini l'hypocrisie. C'est fini faire semblant de jouer à la religion évangélique. C'est la vraie patente. Assurez-vous qu'avec confiance, vous savez, convaincu par l'Esprit qui vous habite, que votre nom est écrit dans le livre de vie. Puis j'avais écrit le verset de notre thème un matin, je ne l'avais pas vu, mais se réjouir que notre nom est écrit dans le livre de vie. Ça, c'est une belle réjouissance. Mais quand est-ce qu'on se réjouit? Hein, qu'à la table du Seigneur? Hein, que le dimanche, on se réunit? Quand qu'on se réjouit? Quand qu'on se réjouit? Je vous suggère de vous réjouir le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours de la semaine, d'être heureux, bien dans votre peau, émancipé, joyeux d'appartenir à Dieu, sachant que personne ne peut vous ravir des mains du Seigneur. Personne. Puis sachons pour ceux qui sont dans le coma, puis endormis, puis gelés, qu'à quelque part, si vous décédez sans Christ, vous passez à côté de la vie éternelle. Votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Vous êtes mort sans Christ. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Refusez de saisir qui est Christ dans votre vie. Puis en faire le maître et le sauveur. C'est ça qui est impardonnable. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Que le Seigneur nous aide à nous remettre en question chacun. Moi, le premier. Puis aller me rassurer. Me rassurer par rapport à être vigilant. Me rassurer et être de ceux qui attendent le retour du Seigneur et me rassurer avec une pleine conviction que mon nom est écrit dans le livre de vie qui ne sera jamais effacé à cause des promesses de Dieu. Prions. Seigneur, c'est un sujet difficile ce matin et tout n'a pas été dit dans ce petit temps que nous avons ensemble dans ce texte, mais Seigneur, toi qui lis les cœurs de toute personne qui est assise ici ce matin, toi qui vois toutes choses, qu'on ne peut rien te cacher, on peut cacher des choses à nos épouses, à nos époux, à nos amis, à maman, papa, mais à toi on ne peut rien cacher. Tu lis notre cœur. Et c'est pour cela, Seigneur, ma prière pour mes frères et sœurs ici ce matin. que tu puisses les affermir, leur donner d'être vigilants, avoir un discernement spirituel, d'attendre ton retour, Seigneur, et leur donner une conviction qui vient de toi, que le nom est écrit dans le livre de vie à cause de tes promesses. Seigneur Dieu, toi qui parles au cœur, on te confie nos frères et nos sœurs qui sont ici, et que tu puisses, Seigneur Dieu, faire de chacun de nous ici, présents, les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, à la gloire de ton nom. Amen.
Amen.